Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, Game of Thrones.
Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Je ne sais pas où serez vous, mais moi je sais. Dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 avril, je sais où je serai. À 3h du matin, je regarderai OCS. Parce que ce jour-là, enfin cette nuit-là pour nous, ça sera le début de la diffusion de la saison finale de Game of Thrones. En effet, la série phare de HBO sera diffusée en simultané entre les États-Unis et la France, en version originale sous-titrée. Et si vous n'êtes pas aussi vaillant que moi, bah c'est au petit déjeuner, le lundi matin, que vous pourrez regarder en replay ce premier épisode. Bon, un long petit déjeuner, hein, puisque ces épisodes feront sans doute 1h10 à 1h30. Par contre, il y en aura moins que d'habitude, hein, et cela culminera le 20 mai, toujours à 3h du matin, avec l'épisode final. Il est certain aussi que d'ici là, vous allez être saoulé par la hype qui va sans doute exploser un peu partout, sur les réseaux sociaux, dans les magazines. Tout sera Game of Thrones, le fédérateur de clics sur Internet, avec des articles du genre « Les chats aiment-ils regarder Game of Thrones ?» ou « Il fait brûler son gratin de courgettes car il regardait Game of Thrones », etc., etc. Donc, moi, pour ne pas vous saouler, non seulement je prends de l'avance en vous parlant de la série avant que vous n'en puissiez plus, mais je vais vous aider à rattraper votre retard, et donc à briller en société. Bon, il n'est pas dit qu'une fois la diffusion terminée de la série, on fasse un prochain Previously, qui fasse un peu un bilan et vous entraîne sur son tournage, mais je vous ai rien dit, ça sera bien plus tard. Mais oui, déjà, la notoriété de la série est proprement stupéfiante. Et attention, je parle bien de notoriété et pas d'audience. Car de ce côté-là, Game of Thrones est une série du câble, produite et diffusée par une chaîne payante, sur abonnement. On est donc sur des chiffres qui n'ont absolument rien de commun avec ceux d'une série diffusée sur le Herzien. Game of Thrones a commencé avec une moyenne de 2 520 000 téléspectateurs sur HBO pour grossir et atteindre 10 260 000 en 2018. Et c'est une paille face à 15 à 20 millions de téléspectateurs qui regardent NCIS sur la CBS, toujours aux États-Unis. Mais si on ajoute à cela le replay et la disponibilité sur HBO Go sur le web, eh bien on monte à 9 300 000 au début de la série et, accrochez-vous, 25 millions quelques saisons plus tard. Ouf ! À tel point que la série, bien sûr, va se terminer, mais une série préquelle, se déroulant des milliers d'années avant Game of Thrones, pendant l'âge d'or des héros, et comptant Naomi Watts dans sa distribution, est en cours de production. Enfin, en tout cas, le pilote est en cours de production. Et tout ça est bien étonnant, hein, quand même, pour une série qui, quand on y regarde bien, va doublement à contre-courant. Premièrement parce qu'elle reste programmée de façon hebdomadaire, et elle génère une fidélisation et des réactions des gens. Et on est à une époque où règne le binge-viewing et où une saison entière est consommée en une journée, puis oubliée la semaine suivante. Donc, c'est assez rare pour mentionner que Game of Thrones vous réunit régulièrement, toutes les semaines. Et la deuxième chose, c'est parce que Game of Thrones est passé du stade d'adaptation au stade de création. Et oui, en effet, si la série a adapté à l'origine le cycle de romans de George R.R. Martin, Le Trône de Fer, La Bataille des Rois, L'Épée de Feu, Un Festin pour les Corbeaux, etc., dès la saison 5, et pour les saisons suivantes, la production de la série a rattrapé l'écriture des romans. Ils sont donc entièrement inédits, basés sur les informations que George R.R. Martin, qui est aussi coproducteur de la série, a bien voulu donner, sous secret, au créateur de la série. Alors que l'on voit beaucoup d'adaptations et de reboots dans de nombreuses séries, Game of Thrones illustre parfaitement ce qu'une bonne adaptation, une adaptation réussie, peut entraîner. Et justement, revenons au commencement. Avec un tel phénomène, vous devez penser que mettre sur pied Game of Thrones était une évidence, et que ça a été aussi simple que pour vous, par exemple, d'aller acheter une baguette de pain. Eh bien, grosse erreur. Game of Thrones a non seulement mis des années à se concrétiser à la télévision, mais aussi a bien failli ne jamais voir le jour. Bah déjà parce que produire une série d'heroic fantasy pour la télévision, c'est quasiment du jamais vu. Et seul Hercule avec Kevin Sorbo et Xena avec Lucy Lawless, tous deux tournés en Nouvelle-Zélande dans les années 90, s'y étaient attaqués avec succès. Et avait d'ailleurs entraîné une vague de projets semblables de Conan à Beastmaster. Pour vous donner un exemple, un projet de 1983, Wizard and Warriors. s'était lamentablement écrabouillé sur le seuil de l'audimat après 8 petits épisodes. C'est que non seulement le genre est segmentant, bon bah ça signifie qu'il ne plaît pas à tout le monde, mais aussi qu'il nécessite des moyens, les mêmes moyens qu'une série historique médiévale par exemple, donc des moyens comparables à un Rome avec ses 100 millions de dollars. Mais c'est exactement ce que recherche la chaîne à péage HBO. En effet, la politique éditoriale de cette chaîne, qui ne fonctionne que via ses abonnements et sans aucune coupure publicitaire, est justement de proposer ce que le spectateur ne peut pas voir chez les autres, et donc de valoriser le prix de l'abonnement. Ça signifie qu'ils ont des films en première diffusion télé avant tous les autres, et quelques mois après leur sortie en salle. Ça signifie aussi qu'ils ont des rencontres sportives, comme des matchs de boxe. Et cela signifie quelques séries originales choisies et mises en place avec soin, des séries très haut de gamme. Le slogan de la chaîne est « It's not TV, it's HBO ». Ce n'est pas de la télé, c'est HBO. Et si c'est le slogan, c'est pas pour rien. Donc des séries originales qui montrent par exemple la vie d'hommes en prison, ou de mafieux sous anxiolytiques, de femmes qui ont la quarantaine et qui parlent de leur sexualité, d'une communauté de mormons polygames, ou de croque-morts confrontés en permanence à la fin de vie. C'est totalement le style des programmes que HBO peut produire et proposer. Donc, après le succès du Seigneur des Anneaux, proposer une série d'heroic fantasy, ou plutôt de dark fantasy, sérieuse et réaliste, une sorte de soprano médiéval, eh ben c'est exactement ce qu'il leur faut. Et c'est ce que deux scénaristes, David Benioff et D.B. Weiss, vont apporter. Ils sont tombés raide dingue de la saga A Song of Fire and Ice et envisagent de l'adapter pour une série télé. Mais une série sombre, violente, sans concession, avec du sexe et du sang. Dès le début, il est question d'inceste entre un frère et une sœur. Donc ça, c'est pas possible de proposer ce genre de projet à une chaîne télé qui interdirait directement ce genre d'excès. HBO, qui, de par sa situation de chaîne payante et donc forcément avec un public restreint et averti, n'a pas ce genre de contraintes. HBO n'est pas le seul, ils ont d'autres concurrents aussi, comme Showtime ou des choses comme ça. C'est ce que David Benioff m'a confirmé, à moi et à quelques journalistes, présents sur le tournage de la première saison de Game of Thrones en novembre 2010. Quand on nous a envoyé les romans, c'était plutôt dans l'idée de les adapter pour le cinéma. J'ai commencé à les lire et Dan s'y est mis peu de temps après. Dès qu'on a pu en reparler, on s'est dit la même chose. Essayer d'adapter cette histoire en film était absurde. Il y avait trop de matière, trop de personnages, trop d'intrigues parallèles. J'ai déjà adapté des romans pour le cinéma et il n'y a pas de secret. Il faut toujours supprimer des choses, des personnages et des intrigues. Couper ci, couper ça. On doit tout faire tenir en 2 heures. Et l'idée de faire rentrer Game of Thrones dans le tout petit cadre d'une histoire de 2 heures me semblait inenvisageable. En tout cas, c'était pas possible de le faire sans saccager les romans. Et nous, on avait envie de raconter toute l'histoire. Pour ça, on a vite compris qu'il fallait se lancer sur plusieurs saisons, avec des épisodes 1 heure. Et que le meilleur endroit pour le faire, ce serait HBO. On pouvait sans doute imaginer 1 ou 2 alternatives, mais HBO était le plus adapté. C'est un univers réservé aux adultes, avec beaucoup de violence et beaucoup de sexe. On ne peut pas diffuser ça sur un network aux États-Unis. Mais l'auteur des romans, lui, qui a presque terminé le 5e tome sur les 7 que comptera la saga, aime HBO. Il y aime le ton de Sex and the City et les morts inattendues des Sopranos. Et l'auteur sait de quoi il parle. George R.R. Martin s'est tourné vers le roman par dépit. Et oui, parce qu'il a longtemps travaillé comme scénariste pour la télévision, écrivant des épisodes de la nouvelle version de The Twilight Zone, par exemple. Oui, vous vous souvenez la 5e dimension qui faisait suite des années plus tard à la fameuse série de Rod Serling. Et c'était plutôt réussi. Eh ben, ça a été ses débuts. En tant que scénariste à la télévision, il y a écrit plusieurs épisodes. Ensuite, il est devenu producteur exécutif de La Belle et la Bête. Oui, d'après l'œuvre bien connue que Cocteau a déjà adaptée. Vous vous souvenez peut-être de cette série atypique mettant en scène Catherine, protégée par Vincent, une créature vivant sous les sols de New York et qui, entre 2 éventrations, lui lisait des poèmes la nuit depuis sa terrasse. Et oui, c'était bien une série avec Ron Perlman et Linda Hamilton de Terminator. Et j'ai rappelé cette série à George R.R. Martin. Quand j'ai pu lui parler, c'était toujours sur le tournage de Game of Thrones en 2010. How much do you enjoy... Vous avez de bons souvenirs de La Belle et la Bête ?
Oh, I liked working on a great deal.
J'avais adoré. On avait une équipe de scénaristes absolument formidable. La série a été créée par Ron Coslow et des gens comme Alex Ganza et Howard Gordon l'écrivaient. On a travaillé avec des acteurs formidables comme Ron Perlman. C'était une des plus importantes séries de fantasy produites sur un network à l'époque. C'était très mythologique. J'ai écrit 13 épisodes et j'ai contribué aux éléments fantastiques. Les cavernes géantes sous New York, les chambres des soupirs, les chambres du vent. J'ai infléchi la série vers une tonalité beaucoup plus fantastique par opposition au drama. Mais depuis la fin de la série en 1990, Martin écrit et propose des pilotes pour de nouvelles séries de science-fiction, mais ils ont tous refusé. Trop ceci, pas assez cela, ouais, ça vous rappelle quelque chose. Hein. Trop ceci, pas assez cela, tout doit être modifié et édulcoré. Par dépit, il va donc écrire une série romanesque qui ne pourra pas être adaptée, avec tout ce qui rebute généralement les télévisions. Mais c'est quasiment pour se venger, quoi, en fait. Donc avec du sexe, du sang, des milliers de personnages qui se bagarrent entre eux, enfin, genre de choses inadaptables. Suite au succès de la saga et à celui au cinéma de l'adaptation du Seigneur des Anneaux, des producteurs le sollicitent. Mais il faudrait au moins 18 films pour cerner rien que le premier tome. Il a volontairement fait le tout très compliqué. L'autre solution était bien sûr une adaptation en série traditionnelle, pour un network. Une série ouverte pour une chaîne gratuite. Mais ça posait tout un tas de problèmes. Ouais, c'était une série ouverte, on pouvait potentiellement étirer l'histoire sur 20 ans. Mais d'un autre côté, les networks sont soumis à beaucoup de contraintes en ce qui concerne le sexe et la violence. Et mes romans sont des livres très adultes, avec beaucoup de sexe et de violence. Je connaissais ces limites. J'avais travaillé pour CBS et ABC, entre autres, dans les années 80. On aurait dû revoir complètement ma série pour qu'elle soit diffusable par un network. Et il y a toujours le risque que la chaîne annule la série au bout de 2 épisodes. Ça arrive très souvent. On n'avait aucune garantie. Pour moi, la seule façon d'adapter mes romans, c'était de se tourner vers HBO pour une chaîne payante, une autre, qui s'engagerait sur au moins une saison entière, et avec qui on serait totalement libre de montrer des scènes de violence ou des scènes de sexe. C'est ce que je voulais depuis le départ. Et c'est à ce moment-là que Benioff et Weiss arrivent, ont saisi le sens de la saga, parviennent à convaincre George R.R. Martin et vont tenter de proposer le projet HBO. Une chaîne qui, à l'exception de Carnivalet, n'a jamais vraiment fait de série de genre. Parce qu'à l'époque, True Blood n'existait même pas. Donc, ils partent un peu perdants. Mais, vous le savez, c'est exactement le type de projet prestigieux que recherche HBO. En janvier 2007, HBO confirme donc qu'elle va développer le projet de Weiss et Benioff avec Martin comme coproducteur. En 2008, plusieurs versions du script initial sont proposées. HBO tombe d'accord sur la dernière version et commande donc un pilote en novembre de cette même année. Le tournage du pilote va donc commencer en 2009, après tout un travail de casting, de préparation, bref, les choses habituelles. Pour la chaîne, investir dans un projet aussi lourd, ben, c'est pas réellement un souci. Tout d'abord parce qu'elle l'a déjà fait avec des séries comme Rome, qui coûtaient quand même un bras, et des mini-séries, celles de Spielberg par exemple, comme Banner Brothers ou The Pacific. Et ensuite parce que elle ne doit pas investir dans 30 ou 40 séries, mais dans quelques-unes par saison uniquement. Le reste de la grille, comme je vous l'ai dit, c'est occupé par des films ou des matchs de boxe. Mais aussi parce que HBO diffuse, mais c'est aussi une structure de production. Elle reste propriétaire de la série. Ce qui veut dire que ce qu'elle investit, elle peut continuer de l'exploiter elle-même auprès des diffuseurs étrangers, en les vendant donc à l'international. Et Game of Thrones est le numéro un des ventes internationales pour HBO, en éditant des DVD ou des Blu-ray, en générant des produits dérivés et en créant même une exposition itinérante. Le premier pilote est en cours de tournage en janvier 2009 et il se plante. Oui, alors vous avez bien entendu, le pilote de Game of Thrones est raté. Mais raté. Le ton n'y est pas, le style n'y est pas, il est beaucoup trop sage, beaucoup trop traditionnel. Dans ce pilote, on ne disait même pas explicitement que Cersei et Jaime étaient frères et sœurs. Donc ça néantit totalement toute la force de l'intrigue. C'est un pilote dans lequel on voit Tyrone avec des cheveux blonds, dans lequel Jon Snow a le look d'un tout jeune ado, bien propre, sans barbe, cheveux courts, avec une perruque. Pour coller au roman, on tente de donner aux Targaryens des yeux violets, mais les lentilles de contact sont insupportables pour les acteurs et actrices, donc on abandonne en cours de route. Bref, c'est une catastrophe. Ce pilote est carrément totalement et complètement raté. Dans une interview, l'acteur Kit Harington plaisante même sur le sujet. Si jamais un jour je deviens un peu trop prétentieux pendant le tournage, il menace à chaque fois de balancer le pilote sur YouTube. Et quelquefois, il m'envoie des photos issues de ce pilote pour me remettre à ma place. C'est vous dire si c'était raté. Et HBO trouve aussi que le pilote est une catastrophe. Et que même certains choix de casting ne fonctionnent mais alors absolument pas. Mais plutôt que tout jeter à la poubelle comme n'importe quel autre diffuseur l'aurait fait, et se dire « bon ben voilà, tant pis, c'est un pilote, ça foire, il y en a plein, on oublie, merci, au revoir », la chaîne demande à Weiss et à Benioff de se remettre au travail sur une nouvelle version du pilote. Ça, c'est quasi du jamais vu. Ça s'est déjà produit, bien sûr. Ça a été le cas, par exemple, dans les années 60 avec Star Trek. Mais quand même, pour HBO, généralement, ça passe ou ça casse. Jon Snow va donc avoir son look que l'on connaît bien, mais des reshoots sont nécessaires sur le pilote pour retourner des scènes avec deux nouvelles actrices dans les rôles de Daenerys et de Catelyn Stark. En fait, c'est quasiment 90% du pilote d'origine qui part à la poubelle et qui est retourné, tout comme son réalisateur d'origine, Tom McCarthy, dont le nom ne figurera même pas dans la nouvelle version qui, elle, est tournée par Timothy Van Patten. Et le pilote d'origine n'a jamais été montré ni diffusé en public. Avec ce nouveau pilote, on est dorénavant dans les clous et dans les styles voulus. Et en mars 2010, HBO donne donc le feu vert à la série. Et commande 9 autres épisodes, plus le pilote, donc 10 en tout, pour une première saison. En septembre 2009, HBO avait aussi donné son feu vert à un autre projet de série extrêmement ambitieuse, c'était Boardwalk Empire, une saga sur la prohibition vue depuis un trafiquant d'Atlanta, avec Martin Scorsese et Terrence Winter comme producteurs. Et le pilote de cette série, donc un an avant, tourné par Scorsese, avait coûté quelques 18 millions de dollars. Donc, peut-être pas dire que Game of Thrones aussi était déjà à l'époque la série la plus chère, il y en avait d'autres. La production de la série en tant que telle commence donc fin juillet 2010. La production s'installe à Belfast dans d'énormes studios, le Pent Hall est d'ailleurs le lieu où le bateau Titanic a été peint. Non, le vrai Titanic, hein, pas le Titanic de Cameron, le vrai. Il y a eu 133 jours de tournage à Belfast pour la première saison et simultanément 37 à Malte, ainsi qu'au Maroc et en Écosse. Évidemment, le budget est à la hauteur du sujet. Il nécessite la création de costumes, de décors d'univers différents au sein du royaume des sept couronnes et donc de tournages dans de nombreux pays censés représenter ces royaumes, ainsi que d'une distribution de plus en plus importante. Il y a à peu près 17 noms qui apparaissent au générique début de la première saison et en tout 162 rôles. On estime pour la première saison que chaque épisode coûte 5 à 6 millions de dollars. Plus on va avancer dans l'intrigue, plus elle entraîne des affrontements titanesques, donc un investissement encore plus important. Mais cependant, un planning extrêmement rigoureux pour tenir dans les budgets et dans les délais. À son moment le plus fort, la série pouvait avoir une équipe de 583 personnes et des scènes nécessitant jusqu'à 250 figurants. Et le 17 avril 2011, la première saison de Game of Thrones est donc diffusée, accompagnée par quelques dépliants dans les magazines, comme Entertainment Weekly, pour annoncer et claironner l'événement. Clairement, c'est un gros enjeu pour HBO qui venait de se remettre sur les rails grâce à la série d'Alan Ball, True Blood, après une longue période d'échec. Quelques 4 années ont donc été nécessaires pour développer concrètement le projet. Les premières audiences ne sont pas formidables, hein, je vous l'ai dit, mais c'est pire, Boardwalk Empire a fait le double, 4 800 000 spectateurs. Cependant, Game of Thrones grimpe grâce à un bouche-à-oreille extrêmement positif et des critiques enthousiastes. À la fin des 10 épisodes, en comptant les replays et autres diffusions numériques, on arrive quand même à 9 300 000 fans. Et ça, c'est pas mal du tout. Quand arrivera la saison 2 et la fameuse bataille de Blackwater, ce sera réellement le baptême du feu pour la série, qui bénéficie pour cela d'une augmentation de ce budget de 15% et devra tourner un mois entier ce fameux épisode. La saga de George R.R. Martin est complexe, on peut cependant dégager 3 grandes familles sur lesquelles toute l'histoire repose. Et les enjeux de la série sont tout de même assez clairs. Le co-créateur David Benioff nous les décrivait au début de la production. Le pouvoir, on y revient toujours. Ça s'appelle Game of Thrones, le trône de fer. C'est l'enjeu de cette immense partie d'échecs. C'est d'ailleurs l'accessoire qui est au centre de toute l'histoire. Vous l'avez vu d'ailleurs quand vous avez visité les décors. Ce trône a été forgé avec les épées des ennemis vaincus par Aegon le Conquérant, des ennemis assoiffés de pouvoir. Le trône est très symbolique. Pour essayer d'y accéder, certains sont prêts à tout. D'autres sont juste pris malgré eux dans ce tourbillon. L'autre thème fort de la série serait la famille. D'ailleurs, je crois que je ne l'ai jamais vu aborder comme on le fait. On retrouve les différentes maisons, les Stark au nord, les Lannister à l'ouest, les Baratheon. qui s'affrontent et se côtoient dans cette logique de clan. La loyauté est une problématique majeure et elle est notamment définie par le sang qui coule dans vos veines. Donc je dirais le pouvoir, la famille et la loyauté. Des thèmes épiques très bien abordés par George dans ses romans. Alors évidemment, je vais forcément ne pas être exhaustif pour vous raconter Game of Thrones. Il y a une myriade de personnages, mais dans la droite ligne des rois maudits, qui voyaient le roi Philippe le Bel envoyé sur le bûcher le plus possible de membres de l'ordre du Templier et étaient aussi témoins des rivalités pour accéder au trône de France, Game of Thrones n'est ni plus ni moins que l'affrontement de familles royales pour accéder au trône de fer. C'est ce que David Benioff vient de nous dire. Et Cersei Lannister, par exemple, est clairement inspiré de la Louve de France, la reine Isabelle, telle que Maurice Druon la dépeignait. Et George R.R. Martin est un grand lecteur des rois maudits. Écoutez bien. Je suis un fan de romans historiques. J'ai toujours eu l'impression qu'on y trouvait une certaine rugosité, un certain réalisme, qui sont plutôt rares dans les univers de fantasy. Je voulais mélanger fiction historique et fantasy. Ceux qui connaissent le reste de mon travail savent que c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai déjà fait. J'ai déjà écrit un thriller de science-fiction et j'ai aussi associé des personnages de littérature classique à des éléments horrifiques très sombres. Je trouve qu'on aboutit à une énergie très intéressante quand on refuse de se laisser contraindre par les frontières d'un seul genre. Quand on passe de droite à gauche et de gauche et qu'on allie le tout. Tolkien m'a beaucoup influencé, mais c'est aussi le cas d'autres auteurs de fantasy comme Jack Vance ou Robert Howard, les écrivains de romans historiques que j'ai pu découvrir pendant ma jeunesse, comme Thomas Bickerstaffe ou Sharon Kepperman. Mais je pense aussi au romancier français Maurice Druon, qui a écrit Les Rois Maudits, une saga de fantasy médiévale extraordinaire. Et beaucoup comparent justement vos romans aux Rois Maudits.
Les Rois Maudits.
Ouais. J'ai lu les 6 premiers tomes, mais j'ai pas lu le dernier. Il n'a jamais été traduit en anglais, ce qui m'agace beaucoup. Donc, pour nous plonger dans les Rois Maudits version Game of Thrones, on va commencer par les méchants. Et Lannister. Toute série a besoin de son traître. Et Cersei Lannister en est la reine, l'impératrice, la queen, la reine des méchantes. Fille du diabolique Tywin Lannister, mariée au roi Robert Baratheon, par pur intérêt, elle voue un amour à son propre frère, Jaime, interprété par Nikolai Coster-Waldau. C'est d'ailleurs avec lui qu'elle a eu 3 enfants attribués au roi Robert, la princesse Myrcella, le prince Tommen et le roi Joffrey. Ces enfants sont effectivement non pas les héritiers du roi Baratheon, mais le fruit d'amour incestueux. Cersei va donc faire assassiner son mari, le roi, juste avant qu'il ne découvre la vérité, et installer son jeune fils Joffrey sur le trône, avec elle comme reine-mère. Sauf que le Joffrey, lui, il n'est pas très très sain d'esprit quand même, franchement un peu pervers. Quand son royaume est attaqué par le frère du défunt roi Robert, Cersei perd confiance, elle envisage de tuer son propre fils, le prince Tommen, mais l'armée de Lannister arrive juste à temps. Le répit de courte durée puisque Joffrey est empoisonné. Lors du procès qui s'ensuit, elle recrute la montagne, un type extrêmement balèze, on va dire comme ça, pour rendre la justice. Elle va ensuite comploter auprès de l'ordre des moineaux, des fanatiques religieux, pour regagner le pouvoir. Et si ça s'avère payant au départ, l'ordre va ensuite se retourner contre elle, l'emprisonner et lui faire avouer ses fautes. C'est là que se déroule la fameuse marche de la honte, où nue à travers la cité, elle va devoir déambuler. Oui, vous avez sûrement vu la vidéo « Shame, shame », voilà, c'est ça. Et le jour de son procès, pour se venger, elle fait exploser le septuaire de Baelor, où sont réunis tous ses opposants. Et même si son fils Tommen se suicide, elle monte tout de même sur le trône. Pour renflouer les caisses de son royaume, elle pille le château de Olenna Tyrell, un personnage incarné par Dame Diana Rigg, l'inoubliable Emma Peel de Chapeau Noir et Bottes de Cuir, et elle tombe à nouveau enceinte de son propre frère, Jaime. C'est Lena Headey, que l'on a vu tenir précédemment le rôle de Sarah Connor dans la série Télé Terminator, qui incarne Cersei. Alors Jaime, oui. Lui, en fait, c'est un guerrier, on l'a surnommé le régicide, le tueur de roi. Il devient Lord Commandant de la garde royale quand son jeune frère Joffrey accède au trône, mais comme l'excitation de la bataille a le dessus, il va faire face aux forces du Nord et être capturé par Robb Stark. Sa liberté va être négociée, c'est en compagnie de la guerrière Brienne de Toth qu'il va retourner auprès des siens. Ce faisant, une complicité, pour ne pas en dire plus, va se créer entre lui et Brienne. Pendant le voyage, il va cependant se faire sectionner la main par un bandit de grand chemin et il changera ainsi de caractère. De retour auprès des Lannister, on lui forgera une main en or, oui, bah, en or, carrément, et ensuite il partira libérer sa nièce. Non, enfin, en fait, sa fille, la princesse Myrcella. Sur le chemin du retour, la princesse va lui confier qu'elle connaît la vérité, qu'elle en est très heureuse, et hop, elle meurt empoisonnée. Vraiment, tout se passe très bien hein, dans Game of Thrones. Il repartira ensuite sur le champ de bataille pour aider le seigneur des jumeaux, Valder Frey, mais le retour à Port-Réal, il assistera au couronnement de Cersei et sera nommé à la tête des armées. Par la suite, face à la menace des Marcheurs Blancs, il part vers le nord. Et enfin, dans cette famille, il y a Tyrion. Tyrion Lannister, le frère nain de Cersei et Jaime. Incarné avec brio par Peter Dinklage. La révélation, véritablement, de la série. Même si les plus fans d'entre vous l'ont déjà vu dans une courte série de science-fiction, Threshold. Et on vient de le voir aussi tenir le rôle de Hervé Vilches, tatou dans L'Île Fantastique, dans un téléfilm, My Dinner with Hervé, pour HBO aussi. Mais bref, revenons à Tyrion, le lutin. Le lutin, comme on l'appelle, c'est un comploteur, un négociateur né, c'est aussi un obsédé sexuel, ce qui n'empêche pas de développer une affection bien réelle pour certaines personnes, comme avec Shae. Bref, comme tous les autres personnages de la série, il n'est pas stéréotypé. Dès le début, il va se faire capturer, emprisonné par Lisa Irene, mais par ruse, il va quitter le château, libre, en compagnie du mercenaire Bronn. Revenu à Port-Réal, il va remporter le combat contre les forces de Stannis Baratheon en utilisant le feu grégois. Il sera nommé grand argentier du royaume et puis sera accusé d'avoir empoisonné son neveu, le roi Joffrey, qu'il avait publiquement humilié quelque temps avant. Lors de son jugement, il sera accusé par tous, y compris par Shae. Et son champion est battu par la fameuse montagne, là, le mec baraqué dont je vous ai parlé, et Tyrion est condamné à mort. Il est sauvé in extremis par son frère Jaime, il va fuir Port-Réal après avoir tué, parce que rien n'est simple, leur propre père. Oui, Tywin Lannister. Tout va bien. Un peu en déshérence, il va finir par se retrouver gladiateur face à la jeune reine Daenerys Targaryen. Il va la convaincre de le prendre pour conseiller, il va découvrir la puissance de ses compagnons volants et l'aidera à libérer sa cité de la menace des esclavagistes, les fils de la Harpie. C'est donc aux côtés de la nouvelle reine, dont il est devenu le bras droit, qu'il parte pour Westeros. Il va retrouver son frère Jaime, lui proposer une trêve. En effet, la menace des Marcheurs Blancs se fait de plus en plus présente, ce qui n'était qu'un mythe de l'autre côté du mur est bel et bien une réalité. Il faut s'unir, car winter is coming. Bon, et maintenant, je vous résume les gentils. Hein. Ça va être plus rapide, parce qu'ils sont tous morts. Quasiment. Alors, les gentils, c'est les Stark. Ned Stark, tout d'abord, le patriarche. Il a lutté auprès de Robert Baratheon pour détrôner le roi fou. Il va donc ensuite rejoindre Robert, le roi, pour être son bras droit. Mais il découvre le secret concernant ses enfants avec Cersei. Ben, qui ne sont pas ses enfants. Hein. Donc, cela lui vaut d'être emprisonné et décapité. Allez hop, c'est Sean Bean qui tient ce rôle capital le temps de la première saison. Catelyn Stark, la femme de Ned, interprétée dans le pilote par Jennifer Hill de Orgueil et Préjugés, est reprise dans la série par Michelle Fairley. Elle est séparée de ses enfants, qui sont donc à Port-Réal, et est emprisonnée par son fils Rob, tout simplement parce qu'elle a décidé de libérer Jaime Lannister, que Rob était parvenu à capturer. Et lors du fameux Red Wedding, les Noces Pourpres, elle sera assassinée ainsi que son fils Rob, qui pourtant menait la rébellion contre les Lannister. Bran Stark, lui, ben, il est toujours vivant quand même. Hein. C'est pourtant lui qui a surpris, couchant ensemble, Cersei et Jaime, la sœur et le frère. Et sa chute du haut du château l'a laissé paralysé. Mais il possède Été pour le défendre. Mais c'est un loup géant qui lui obéit. Et puis il y a aussi Hodor, un géant bienveillant qui s'appelait auparavant Willis et qui ne prononce jamais plus d'un seul mot, Hodor. Tous les trois, accompagnés du frère Rickon Stark, le plus jeune de la famille, fuient vers le nord. Là, il va finalement rencontrer la corneille à trois yeux qu'il voit en rêve depuis des mois. Elle va lui permettre de se plonger dans le passé. Il va ainsi découvrir que Jon Snow est en fait le fils de sa tante Lyanna avec Rhaegar Targaryen, qu'il avait enlevé. Ses visions prémonitoires lui montrent aussi la chute du mur. C'est Isaac Hempstead White qui tient ce rôle. Et Sophie Turner, elle, incarne Sansa Stark, qui après la mort de son père va être offerte en tant que fiancée au roi Joffrey. Bien malgré elle, elle sera responsable de sa mort, puis elle s'enfuira aidée par Littlefinger. Elle tombera entre les mains de Bolton, qui la maltraitera, puis sera sauvée par Brienne. Oui, la fameuse Brienne dont je vous ai parlé là un peu avant, qui a accompagné Jaime Lannister. Grâce à Brienne, donc, elle va rejoindre son frère, Jon Snow, au Château Noir. Avec lui, elle parvient à reprendre Winterfell, livre Bolton, son ancien bourreau, à ses chiens affamés. Ah, je sais, c'est assez dégueu, la scène est quand même assez... Enfin, voilà, quoi. Elle va ensuite gouverner le Nord pendant que Jon Snow quitte Winterfell. Arya Stark, elle, la plus jeune fille de la famille, est interprétée par Maisie Williams. Et elle est parvenue à s'enfuir de Port-Réal après la décapitation de son père, en se déguisant en garçon. Elle va être faite prisonnière dans la forteresse de Harrenhal, puis elle va subir un féroce entraînement dans la cité de Braavos, pour devenir une sans-visage au cœur de la Maison Noire et Blanc, avec une suite d'épreuves dont l'une la rendra même temporairement aveugle, si vous dire. Une fois son initiation achevée, elle va s'infiltrer dans le château de celui qui a provoqué le massacre de sa mère et de son frère durant les noces rouges. Et sous l'apparence d'une servante, elle va l'assassiner. Mais puisqu'on est dans Game of Thrones, elle l'assassinera en lui faisant manger ses propres enfants. Ensuite, de retour à Winterfell, auprès de sa famille Sansa, Bronn et Jon, elle tuera Littlefinger après que tous auront mis à jour ses nombreuses manigances. Et enfin, il y a Jon Snow. Interprété par Kit Harington, c'est le fils bâtard de Ned Stark, enfin, du moins le croit-on, durant plusieurs saisons. Puisqu'on découvre, en fait, qu'il est le fils de la sœur de Ned Stark avec Rhaegar Targaryen. Il va rejoindre la garde de nuit dans le Château Noir et va explorer le monde des Marcheurs Blancs. Là, il va rencontrer les Sauvageons, s'amouracher d'Ygritte, puis il va refuser de devenir le prince de Winterfell, préférant revenir à la garde de nuit, où il sera élu commandant. Lors d'une expédition de l'autre côté du mur, il tente de sauver les Sauvageons des Marcheurs Blancs. Il va être tué, il va être ressuscité, il devient roi du Nord après la bataille des bâtards, puis il va enfin quitter Winterfell pour tenter de réunir toutes les familles contre la menace bien réelle des Marcheurs Blancs. Lors d'une mission destinée à capturer un mort-vivant, il sera piégé par cette armée, mais sauvé in extremis par son oncle, Benjen Stark. Qu'est-ce qu'il fait là? Pour l'instant, voilà, on ne sait pas. Grâce à son zombie prisonnier, il va prouver que la menace des morts-vivants existe bel et bien. Et maintenant, après les méchants, après les gentils, les outsiders. Là encore, ça va aller vite, hein. À savoir, les Targaryens. Aerys Targaryen était roi, mais cédant à une folie destructrice, il a été détrôné. Et ce qu'on apprend par la suite, c'est qu'il a aussi fait brûler vif Lyanna, la sœur de Ned Stark, et Rhaegar Targaryen, de sa propre famille. Sauf que, avant de mourir, ils ont eu un enfant ensemble, Jon Snow. Donc on peut en déduire que Jon Snow, qui se prénomme en réalité Aegon, est le prétendant légitime héritier du trône de fer. Voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Donc voilà, je vous ai pas spoilé la fin parce que je sais pas, mais enfin, on se dirige un peu vers ça quand même, hein. Mais avant d'en arriver là, les survivants de la guerre contre le roi fou sont Viserys et Daenerys, frères et sœurs Targaryens. Tous deux espèrent reprendre le trône qui leur a été volé. Pour cela, ils font le pari de s'allier avec les très dangereux Dothraki, capable donc de devenir leur armée. Bon, pour Viserys, c'est vite fait, il est tué quasiment dès le début. Par contre, pour sa sœur, Daenerys, qui est incarnée par Tamsin Merchant dans le pilote et maintenant par Emilia Clarke, c'est une autre histoire. Elle s'offre au roi Khal Drogo en échange de son armée. Et de contrainte au départ, elle va réellement respecter son mari et son peuple et va devenir une vraie Khaleesi. Khal Drogo va rendre l'âme, ce qui permet d'ailleurs à son interprète, Jason Momoa, de devenir Aquaman. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Et à Daenerys d'être la reine respectée des Dothraki. Elle va donc lever une armée, parcourir le pays en direction de Westeros, ralliant à elle les Immaculés, les esclaves de la baie des Cerfs, par exemple. Elle s'installe à Meren, va y accueillir Tyrion Lannister, le nain, le imp. Elle va découvrir ses capacités de stratège et lui va tomber sous le charme de cette puissante reine. Aux côtés de Daenerys, de façon intermittente, il y a aussi le guerrier Jorah Mormont qui lui voue un amour sans borne. Mais Daenerys n'a pas simplement gagné un peuple, elle a aussi gagné des œufs. Bon, des œufs de dragon qui éclosent et donnent donc naissance à des bébés dragons. Petits dragons deviendront grands et donc des armes redoutables pour la reine qui les considère comme ses enfants. C'est d'ailleurs un vrai drame pour elle quand elle va en perdre un lors d'une bataille. Son avancée est inexorable. Avec ses dragons, elle va prendre Castle Rock et réduire en cendres l'armée de Jaime Lannister. Et une seule personne va refuser de se soumettre à elle, Jon Snow. Il ne s'agenouille pas devant elle. Cependant, cette résistance, évidemment, va marquer le début d'une histoire d'amour entre les deux, alors qu'ils ignorent encore qui sont liés par le sang. Tous ces personnages vont converger vers Port-Réal, où la réalité de la menace des Marcheurs Blancs va leur être révélée. Jon Snow a lutté contre les Marcheurs Blancs, en a même ramené un. Nul ne peut plus ignorer cette menace, alors que le mur n'est plus la protection qu'il a été durant des années. Pour terminer, pour vous montrer l'évolution de la série, voici ce que David Benioff, donc le co-créateur de la série, me disait en 2010 sur le tournage de la saison 1. Dans votre processus d'adaptation, vous avez favorisé plutôt les personnages que les aspects un peu fantasy. Les personnages, c'est le plus important. Prenez le Seigneur des Anneaux. Ce sont de très bons films, en effet, de bonnes adaptations. Et on sait très bien qu'on ne sera jamais à la hauteur en termes d'effets spéciaux ou de scènes grandioses. On ne pourra jamais faire de batailles colossales avec 50 000... Comment ils s'appellent déjà ? Les Uruk-hai, ouais, voilà, les Uruk-hai. Donc on ne va surtout pas essayer de rivaliser avec eux dans ce domaine. On va plutôt se spécialiser ailleurs. On peut consacrer du temps à chaque personnage et on a la chance d'avoir des acteurs fabuleux. Donc oui, on n'aura pas les moyens de faire comme le Seigneur des Anneaux. Dans une interview donnée au magazine TV Guide en janvier 2019, donc il y a très peu de temps, David Benioff confie que l'ampleur de cette saison finale dépasse tout ce que nous avons tenté auparavant. Initialement, l'idée de base était que ces 6 derniers épisodes soient produits et sortent sous forme de longs métrages au cinéma. Mais HBO est quand même une chaîne de télévision, c'est un réseau de télé quand même, hein, et finalement décidé de donner 15 millions de dollars pour chacun des 6 épisodes et les diffuser chez eux. Une des batailles majeures de cette saison a d'ailleurs demandé 55 nuits de tournage en extérieur et des semaines de tournage en studio. Donc voilà, maintenant vous savez tout. Et moi, je sais où je serai dans la nuit du 14 au 15 avril. La semaine prochaine, changement complet d'univers avec moustache, chemise hawaïenne et grosse Ferrari, je vous parlerai de Magnum. Notre podcast est à retrouver sur les plateformes Deezer, Podcast Addict et Apple.